Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. C'est mathématique, plus le taux de divorce augmente, plus la probabilité de vivre dans une famille recomposée monte en flèche. Selon les chiffres de l'INSEE publiés en 2017, 11% des enfants vivent dans ce type de famille élargie. Mais comment bien vivre cette reconfiguration familiale? Comment faire pour que les beaux-parents trouvent leur place pour assurer l'autorité et le respect des règles communes? Comment s'y prendre pour que les enfants s'entendent avec les nouveaux membres de la tribu? Les familles recomposées sont-elles condamnées aux disputes et aux conflits permanents? Comment réduire au maximum les tensions? Et puis, est-on obligé d'aimer l'enfant de l'autre? Quelles sont les clés fondamentales pour vivre en harmonie? Bref, comment survivre dans une famille recomposée? Difficile, mais possible, nous dirons nos invités. Avec nous, Catherine Selnay, professeure des universités en sciences de l'éducation, et Béatrice Copper-Royer, psychologue, clinicienne, avec nous également, comme tous les mardis, Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle. N'hésitez pas à poser vos questions et à témoigner si vous vivez ou avez vécu dans une famille recomposée au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Mal Vous Fasse. Bonjour Éric Libion.
Bonjour Ali.
J'ai votre garde une semaine sur deux. Une fois c'est Christophe
ah oui,
André.
Pas vu les choses comme ça,
ben oui, une fois c'est Christophe André, une fois c'est vous. On retrouve vos choses presque vues vers 11h25.
Voilà, et aujourd'hui on part dans la lune.
Eh ben tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Mal Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Catherine Selnay.
Bonjour.
Vous êtes professeure en sciences de l'éducation, chercheuse au Centre de recherche en éducation de l'Université de Nantes et vous avez notamment publié chez Max Milo avec Claudine Pack, L'enfant de l'autre. Bonjour Béatrice Copper-Royer.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue clinicienne, cofondatrice de l'association e-enfance, une association spécialisée dans la lutte pour la protection des enfants sur Internet et vous publiez chez Solar et la famille recomposée avec un point d'interrogation sous-titré pas facile mais possible. Alors selon l'INSEE, une famille recomposé comprend un couple d'adultes mariés ou non, et au moins un enfant né d'une précédente union de l'un des conjoints. Les enfants qui vivent avec leurs parents et des demi-frères ou demi-sœurs font également partie d'une famille recomposée. Toujours selon l'INSEE, les familles recomposées comptent environ 1,5 million d'enfants mineurs. On évoquera tout à l'heure, tout au long de cette émission, les difficultés, les heurts, les incompatibilités d'humeur. Mais pour vous, Béatrice Copper-Royer, la famille recomposée peut être la source d'une vie enrichissante. Inattendue, écrivez-vous, le jeu en vaut la chandelle.
Ben oui, bien sûr. Et heureusement, puisqu'il y a tellement d'enfants maintenant qui vivent dans des familles recomposées, je pense que ça demande à tous un effort. Ce n'est pas, ça va pas de soi. Il faut pas rêver, ça va pas de soi. Mais ça développe chez chacun la capacité d'adaptation, l'ouverture sur des éducations différentes, des mondes différents. Et donc, je pense qu'effectivement, ça peut être source d'un grand enrichissement et de beaucoup de joie.
Or, certains, comme le psychiatre Daniel Marcelli, préfèrent l'expression « famille juxtaposée ». Vous, Catherine Selnay, vous préférez le terme « famille binucléaire » ?
Tout à fait, parce que je pense qu'au départ, c'est d'abord l'envie de recomposer un couple et pas forcément l'envie de recomposer une famille. Et au temps où, dans les temps anciens, on était sur des recompositions familiales de veuvage, où il fallait faire avec l'absente, celle qui avait disparu, au temps où aujourd'hui, on est en effet avec une cohabitation de deux femmes, de deux hommes, et je pense que c'est beaucoup plus complexe, en fait. Et je préférais, en effet, le terme de binucléaire qui montrait bien que la recomposition était peut-être moins du côté des enfants et peut-être davantage du côté des adultes.
Alors créer des liens harmonieux au sein de la famille recomposée, c'est souvent difficile, mais c'est essentiel. Mais pour vous, Béatrice Copper-Royer, le désir de sérénité à tout prix peut se révéler toxique.
Mais ça c'est vrai parce que je pense qu'on est quand même dans un espèce de mythe de l'harmonie, une espèce d'idéalité comme ça familiale. Alors déjà la famille en soi c'est un peu compliqué, c'est jamais complètement sain. Et une famille recomposée, c'est-à-dire la réunion de personnalités qui viennent de mondes différents, qui les enfants qui ont des éducations différentes, qui sortent aussi un peu quand même fracassés, souvent d'une rupture familiale qui a été plus ou moins douloureuse ou compliquée. Il y a aucune raison que ça soit simple. Donc je pense que si déjà on arrive en se disant on va prendre son temps pour que les choses se construisent, ça sera plus, il y aura moins de frustration, ça sera moins décevant que de se dire que ça va se passer comme sur des roulettes.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense, si vous voulez, que pendant tout un temps, le tort, y compris des livres de littérature jeunesse, a été, par exemple, un enthousiasme assez délirant sur la recomposition familiale, qui faisait l'impasse peut-être sur la période avant, c'est-à-dire la séparation, ce qu'on pourrait appeler une clinique de la perte. Et je pense que cette espèce de saut, je dirais, dans le jovial, l'interactif, l'épanouissement total, va trop vite, en tous les cas, pour les individus, et qu'on a fait, en effet, peut-être un peu un point obscur sur tout ce temps d'adaptation que nécessite la recomposition.
Dans votre cabinet de psychologue clinicienne, que vous racontent les enfants qui vivent dans une famille recomposée ?
Alors, ça dépend du moment, du temps de la séparation de leurs parents, et du moment où un des parents, ou les deux, se remet en couple et recompose une famille. Je crois que pour ceux à qui on demande d'aller beaucoup trop vite, c'est compliqué. Ils ont même pas le temps de digérer une séparation, de la séparation de leurs parents, ce qui certes est très très fréquent, mais n'est jamais banal pour eux. Que déjà, on les met en demeure de tout d'un coup s'entendre, aimer entre guillemets et partager le temps de personnes en réalité qui connaissent peu ou pas. Et donc ces enfants-là, ils se plaignent. Quand on a respecté un temps de latence suffisamment long, quand on a pris comme ça le temps de penser, de réfléchir et de les laisser justement s'adapter, ça va beaucoup mieux.
Dans un foyer traditionnel, les liens du sang empêchent de remettre en question la place des membres de la tribu. Dans une famille recomposée, les places sont à inventer et les remises en question sont toujours possibles, Catherine Selnay.
Bien sûr que les places sont toujours, je dirais, à négocier et qu'il y a en effet tout un temps d'apprivoisement. Simplement, ce qu'ont montré, en tous les cas, les entretiens que nous avons faits, une quarantaine d'entretiens avec les jeunes, je dirais que les places néanmoins restent relativement fixes et notamment, nous avons été très surprises de voir que ce terme de pluriparentalité qui a été inventé par notre société et qui prône finalement l'émergence de figures parentales additionnelles qui s'entendent bien. On doit s'entendre aujourd'hui avec son ex, par exemple. Eh bien, dans la réalité, ce n'était pas aussi évident. Et nous avons plus eu l'impression qu'il y avait une matricentralité. C'est-à-dire que globalement, quand même, les mères restent en position très dominante. Et finalement, il y a, pour la belle-mère en tous les cas, une difficulté à prendre place dans cette configuration.
Je crois aussi que les enfants vivent mieux la recomposition familiale comme quand leurs deux parents continuent d'avoir une entente possible et un dialogue possible. Quand il y a un des parents qui souffre terriblement de la séparation, qu'il n'a pas du tout digéré et qui du coup est dans un espèce de discours dévalorisant de l'autre et a fortiori de son nouveau compagnon ou sa nouvelle compagne, alors là ça se complique carrément parce qu'ils sont pris dans un conflit de loyauté les enfants et ils ont du mal à s'en sortir.
Un mot tout de même sur les termes de belle-mère et de beau-père. La première occurrence apparaît en 1673, Catherine Selnay.
Au niveau notamment chez Molière, dans le Tartuffe de Molière. Et je crois qu'il y a une difficulté aussi à nommer les places dans notre société, contrairement à d'autres pays. Belle-mère, pour nous, c'est à la fois finalement deux personnes, c'est-à-dire la nouvelle compagne du père, mais c'est aussi la belle-mère que dont on hérite lorsqu'il y a un mariage. Et je pense que toutes ces dénominations sont trompeuses. Belle-mère, d'ailleurs, voulait dire bonne, hein, bonne et non pas belle. Donc, on peut être belle-mère sans être.
Je crois que ça apparaît plutôt dans le malade imaginaire, si j'ai bien lu votre livre, Catherine Selnay.
Peut-être bien, oui.
Voilà. Et on a souvent et longtemps utilisé les termes parâtre et marâtre, qui avaient très mauvaise réputation dans les contes de fées et les romans.
Oui, je pense que tout notre imaginaire collectif a été nourri d'ailleurs de ces contes que l'on pense à Cendrillon, à Blanche-Neige, d'où je dirais une sorte de très très mauvaise image de la belle-mère qui a été totalement relookée dans les livres jeunesse aujourd'hui au point je dirais de devenir finalement une femme extrêmement sexy, celle par laquelle le bonheur arrive, qui potentiellement peut augmenter je dirais également la fratrie. Donc un relookage intéressant mais qui n'a peut-être pas fait disparaître toutes les appréhensions.
Oui, parce que ça reste toujours une rivale. Alors, elle est pas méchante, mauvaise et absolument horrible et affreuse comme dans les contes. Mais justement, elle peut être sexy et source de grande rivalité pour la fille. Elle peut être aussi excitante pour le fils, qui est en rivalité avec son père. Donc, elle a quand même une position qui est pas facile.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Qui dit famille recomposée dit d'abord deux familles qui se décomposent. Cette période d'entre-deux, parce que vous l'avez dit, retrouver l'amour pour l'un ou l'autre, voire les deux, ce qui est quand même l'idéal dans les deux, dans le couple. Cette période, elle est cruciale. Comment gérer effectivement le questionnement des enfants, les pertes de repères, cet édifice finalement qui s'effondre?
Tout à fait, je crois que c'est un édifice qui s'effondre et que peut-être l'envie de faire famille, d'ailleurs, même dans le temps de la rencontre ou de la présentation de la belle-mère, est un temps peut-être à soigner. Il faut soigner les transitions. Et on a l'impression que parfois, d'ailleurs, les couples, ne sachant pas trop comment s'y prendre, vont faire cette présentation de l'autre, du nouveau beau-père ou de la nouvelle belle-mère, autour de la table. Or, il n'y a rien de plus, je dirais, symbolique que de faire famille autour de la table, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un moment qui va rester, qui va faire mémoire de façon très positive dans la tête des jeunes, parce que c'est aussi autour de la table que se jouent tous les modèles éducatifs, par exemple, tous les transmissions de rites, de rituels, et je pense que ça confronte d'emblée certains enfants à une représentation de la famille auquel ils n'étaient pas prêts. Et donc, je pense en effet qu'il y a tout un apprivoisement à faire, un peu du type de ce qu'on voit dans le Petit Prince de Saint-Exupéry et de tout le message que passe le renard au Petit Prince sur cette espèce de proximité qui va se faire petit à petit, mais pas d'un seul coup.
Allez, n'hésitez pas à poser vos questions et à témoigner au 01 45 24 7000. En raison d'un mouvement de grève, nous ne pourrons pas vous entendre, mais je lirai vos fiches. Vous pouvez également témoigner sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivelaire, Claire Destacan et Dimitri Hénaud m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Je vous propose d'écouter une chanson de 1966. Cette année-là naissait l'actrice Sophie Marceau et disparaissait le comédien Montgomery Clift. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Chante tout bas, bada, 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 bada. Nos cœurs y voient, bada, 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 bada. Comme une chance, comme un espoir.
Toi et moi, Eric Libio. Hein?
Je reste sans voix quand vous me dites des
Nicole
choses pareilles.
Nicole Croisi et Pierre Barou, l'ABO d'un homme et une femme, signé Michel Legrand, évidemment.
Bon, écoute, à ta place, j'attends de
vous. Ne mettez pas à ma place, c'est moi sa mère, c'est moi qui prends les décisions pour lui.
Grand bien vous fasse.
Toi, tu t'occupes de tes enfants et moi, je m'occupe des miens.
Sur France Inter.
Non, je n'ai pas dit Nicole Croisi, j'ai dit Nicole Croisi, notre cher technicien Rémi Sistiaga qui me cherche. Il est 10h20 et on s'intéresse ce matin à la famille recomposée avec la psychologue clinicienne Béatrice Copper-Royer et la professeure en sciences de l'éducation Catherine Selnay. Questions et témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
Hélène, vite, vite, va ouvrir.
Maman, c'est Pierre avec Gaspard et Sylvain. Ah, salut.
Bonjour.
Bonjour.
Salut Nico.
Qu'est-ce que vous faites là?
Bah, je suis amené les enfants.
Mais je croyais qu'on devait se retrouver à la gare.
Ah non, Bernard m'a fait dire par les enfants qu'on se retrouvait ici.
Ah bon?
Bonjour Pierre.
Bonjour. Je te présente Victor, un ami de Paul.
Ah oui, bonjour, tu lui prêtes bonjour. Le jeu, hein?
Ouais, ouais, d'accord.
Bon, je me sauve, on se téléphone.
Oui, oui, à plus tard, je me grouille.
Au revoir, papa.
Au revoir, tu lui prêtes, hein?
Ouais, ouais, mais oui.
C'est l'ex-mari de Sophie. Et Gaspard, c'est le fils qu'il a eu avec Sylvie, sa deuxième femme. Et Sophie a eu Hélène et Nico avec Bernard, son deuxième mari.
Ah, je vois.
Maman, j'ai paumé mon livre de maths.
Et Sylvain, c'est leur fils.
À qui?
À le fils de Pierre, le premier mari de Sophie et de Sophie.
Ah oui, oui.
Je te préviens qu'on fera des maths quand même.
Vite, Hélène, va ouvrir.
Alors, j'ai... Maman, c'est Alain, Marie.
Tu vois, Alain, c'est le mari actuel de Marianne, la première femme de Bernard, le mari de Sophie. Et Marie, c'est leur fille, qui se trouve donc être la demi-sœur des enfants de Marianne et Bernard. Tu comprends?
Oui, oui, tout à fait.
Enfin bref, il y a beaucoup de demi-frères et de demi-sœurs, ils partent toujours tous ensemble en vacances. Ça fatigue, non?
Très, très, très.
Scène de la vie recomposée dans la crise de Colline Serrault en 1992, et je me corrige tout de suite avant que vous envoyiez en masse des courriels, évidemment, un homme et une femme, c'est une bande originale signée Francis Lay et non pas Michel Legrand. Béatrice Copper-Royer, quand on pense famille recomposée, on pense tout de suite au rapport entre les beaux-parents et les enfants du conjoint, ce beau-père, cette belle-mère, souvent perçue comme un fauteur de troubles, c'est celui qui porte le poids de la rupture du couple parental.
Oui, enfin même si c'est pas vrai, mais en tous les cas c'est celui qui signe définitivement la fin du couple parental, parce que les enfants ont très très longtemps dans leur tête l'espoir que leurs parents se remettent ensemble. Donc quand le père ou la mère se remet en couple avec quelqu'un, là c'est une épreuve de réalité qui les contraint à penser la rupture. Donc évidemment ce beau-père ou cette belle-mère est d'abord vu quand même avec une certaine défiance. Ensuite, c'est à lui ou à elle d'apprivoiser petit à petit et de construire la relation qui, je le répète, va pas se faire du jour au lendemain.
Catherine Selnay.
Oui, je partage tout à fait cet avis. Je crois, ceci dit, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que tout va dépendre aussi des causes du divorce. Vous avez des Italiens notamment qui reconnaissent quatre causes dans le divorce, qu'on appelle l'échec de l'encastrement. En un mot, chaque membre du couple ne n'avait rien à faire ensemble et j'ai envie de dire, ils se séparent faute d'affinité. Là, c'est un peu différent. Mais il y a aussi une deuxième cause qui est, par exemple, ce qu'on appelle l'événement imprévu. C'est-à-dire la rencontre avec quelqu'un d'autre. Et là, je crois que dans ce type de configuration-là, il est évident que l'autre ne peut être que le rival, le destructeur du couple premier, et que probablement que les tensions sont beaucoup plus grandes. D'autant lorsque un seul membre du couple recompose et pas l'autre. Et on voit à ce moment-là des enfants qui sont dans un temps précipité, je dirais, de la reconquête amoureuse, de la vie heureuse, etc., dans une partie de leur vie, et puis dans un temps figé pour celui qui a été quitté, et qui peut être un temps dépressif. Et je crois que pour les enfants, naviguer d'un univers à l'autre n'est certainement pas très simple.
Accepter ce nouveau conjoint, c'est différent selon l'âge. Les enfants de moins de 10 ans ont plutôt tendance à mieux accepter le beau-père ou la belle-mère, Béatrice Copper-Royer.
Les enfants petits, ils ont peu d'autonomie psychique par rapport à leurs parents. Ce qu'ils veulent, c'est être protégés, être aimés. Et donc, leur capacité de jugement, elle est très... influencés par le parent. Des enfants plus grands, en revanche, ils ont tout à fait leur avis sur la question et ils peuvent se mettre aussi en attitude oppositionnelle. Par exemple, l'adolescent, il va attaquer par exemple son beau-père ou sa belle-mère parce que d'une certaine façon, du coup, il protège le parent et donc il fait un peu l'économie de ce conflit de l'adolescence. Donc, c'est vrai que les âges impactent pas mal la façon dont les beaux-parents vont être perçus et regardés.
Catherine Selnet, quel conseil donneriez-vous à un beau-parent qui découvre les enfants de son conjoint? Vous conseillez de conserver une position attentiste, d'observateur?
Nous n'avons pas voulu donner de conseils dans ce livre, peut-être parce qu'il y a beaucoup de guides, justement, de conseils sur ce soutien à la parentalité. Mais il est évident pour moi, en tous les cas, je le disais tout à l'heure, que les transitions doivent être quand même pointées, notées, et qu'on ne peut pas entrer dans la vie d'un enfant, quel que soit son âge, je dirais, à une vitesse qui est précipitée. C'est peut-être là où les livres pour enfants, je trouve, n'aident pas aujourd'hui, dans le sens où ils font de l'enfant un petit consommateur. C'est-à-dire j'ai deux maisons, j'ai deux bisous, deux Noël, deux cadeaux. Vous voyez, tout est multiplié par deux. On est en fait dans de la diplopie organisée. Mais je ne pense pas que ça permette à l'enfant justement peut-être de digérer ce qu'il a à digérer, c'est-à-dire la séparation.
Le beau-parent est-il obligé d'aimer immédiatement l'enfant de l'autre?
Non. Non, certainement pas. Maîtrise Coupervoyer. Non, certainement pas, parce que ça va pas de soi. Et d'ailleurs, l'enfant non plus n'est pas mis en demeure d'aimer le beau-parent. Moi, je dis toujours qu'il faut faire une très très grande différence, qu'il n'y a pas d'obligation d'amour, mais qu'il y a une obligation de respect. Quand on vit ensemble, on se respecte, mais on n'est pas obligé de s'aimer. Et l'amour, il vient en surcroît, oui ou non.
Oui, lorsque je disais que l'envie, c'est d'abord de recomposer un couple, ce n'est pas forcément d'aimer les enfants de l'autre. Et lorsqu'on interroge même les rapports, je dirais, qui sont plus des rapports de fratrie, par exemple, on s'aperçoit que les jeunes n'ont pas intégré ce qu'on appelle aujourd'hui d'un très vilain mot les quasi-frères et sœurs, c'est-à-dire ceux avec lesquels on n'a absolument aucun lien biologique. Et certains même les empêchent d'être des amis sur leur réseau. C'est dire à quel point les quasi-frères et sœurs sont au mieux des copains et des copines, mais parfois des intrus dans la vie des enfants.
Maîtrise Coupervoyer, j'aimerais qu'on comprenne un exemple concret, l'exemple d'une belle fille adolescente qui refuse de parler à la nouvelle compagne de son père, la nouvelle compagne qui apparaît comme une marâtre que l'on pourrait retrouver dans Blanche-Neige ou Cendrillon.
Oui, alors à 13 ans,
c'est très fréquent.
Non, 13 ans, c'est un très mauvais âge parce qu'effectivement, elle est en rivalité avec cette femme et elle la prend aussi pour cible de son opposition adolescente à sa mère. C'est beaucoup plus facile de s'attaquer à la belle-mère qu'à la mère qu'elle préserve. Ça va dépendre aussi de l'attitude psychique de sa mère. Comment est-ce que sa mère vit la recomposition familiale du mari, de son ex. Mais c'est très 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 agressif de pas du tout parler, hein. C'est une espèce d'opposition passive qui est insupportable. Moi, je crois qu'il faut que le père, à ce moment-là, défende sa compagne, qu'il monte au créneau et qu'il pose des limites à cette adolescente, hein, justement en faisant une très très grande différence entre l'obligation d'amour et l'obligation de respect. Quand on vit ensemble, on se dit bonjour, au revoir, merci. C'est pas une contrainte insurmontable.
Et la psychanalyste Catherine Audibert parle de complexe de la marâtre. Ouais. Pour elle, la marâtre, pour créer des liens avec les enfants, eh ben elle doit y être autorisé par le père. Dès qu'il se libère un peu de sa culpabilité, le père permet qu'une porte s'ouvre entre sa compagne et ses enfants.
Et là, vous touchez un point important, parce que la culpabilité est vraiment quand même très 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 souvent active dans ces recompositions familiales et empêche justement que les choses soient claires et que le beau-parent notamment prenne une place sans prendre la place de l'autre parent, mais prenne quand même une place. Et là, il doit y être autorisé par le parent.
Marie-Laure Zunshine.
Oui, est-ce que dans l'entourage familial, je pense notamment aux grands-parents, est-ce qu'ils ont un rôle qui peut être central, celui de facilitateur, voire de pacificateur, d'arbitre, de modérateur? C'est un socle aussi énorme pour les enfants, les grands-parents.
Bien sûr, je crois que tout adulte d'ailleurs peut jouer ce rôle de pacificateur. Le problème est peut-être que lorsque l'on regarde dans le temps, ce sont les lignées, je dirais, parfois paternelles qui sont les plus touchées. Elles se maintiennent moins dans l'existence quotidienne de l'enfant. Les lignées maternelles se maintiennent mieux, ce passage par la mère généralement. Hein. Et donc, on peut avoir en effet des grands-parents qui vont exacerber le conflit, hein, c'est-à-dire qui vont prendre parti contre finalement le beau-père ou la belle-mère, contre leur ex-gendre ou belle-fille, et qui peuvent en effet mettre de l'huile sur le feu de façon extrêmement importante. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en effet, les enfants mettent en place en effet des stratégies d'évitement solutions qui sont multiples. Stratégie d'évitement, c'est-à-dire ne pas être dans le même espace que le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne. Donc, on évite les pièces communes. Et puis, stratégie d'évitement, y compris même pour demander quelque chose à table. C'est-à-dire, ouais. on ne va pas s'adresser à la belle-mère ou au beau-père, mais on va s'adresser à son père ou à sa mère, alors que l'objet est à côté de cette autre personne.
Pour en revenir sur les grands-parents, je pense qu'effectivement, vous avez raison, ça peut être des recours précieux, qu'ils le sont quand même souvent, qu'en consultation, les enfants, ils parlent pas mal de leurs grands-parents, et que au moment où leurs enfants se séparent, c'est vrai qu'il faut qu'ils réfléchissent à deux fois, les grands-parents, avant de prendre parti, avant de s'embarquer comme ça dans des prises de position qui vont faire souffrir leurs petits-enfants. Parce que leurs petits-enfants, ils ont besoin justement d'un lieu où ils peuvent penser à autre chose et dire ce qu'ils veulent sans avoir le sentiment que leur parole va être utilisée, récupérée, etc.
Question très pratique, que faire quand l'enfant ne supporte pas, quand le beau-parent lui fait une réflexion? Et plus globalement, quelle est la place du beau-parent pour faire respecter l'autorité, les règles de vie communes? Quelle est sa légitimité, Béatrice Copper-Royer?
Sa légitimité, c'est celle que lui donne son compagnon ou sa compagne, le père des enfants. Hein. Et pour que ça marche, il faut quand même qu'il lui donne cette légitimité, qu'il la protège ou qu'il le protège quand les conflits sont trop forts. Sinon, c'est invivable, il y a des ressentiments épouvantables. Il y a quand même beaucoup de familles recomposées qui se redécomposent. Hein. Donc, et justement, parce que les enfants... ont finalement tenu les rênes et ont gagné, ont pris le pouvoir.
Je suis tout à fait d'accord. Je crois que, en tous les cas, c'est pas un problème d'enfant. C'est en effet un problème d'adulte, cette question de positionner l'autre. Et ce que l'on remarque quand même aussi, malgré tout, c'est que parfois, les intéressés, c'est-à-dire le père ou la mère, ne veulent pas non plus lâcher leurs prérogatives et confier à l'autre, beau-parent ou belle-mère, quelque chose qui serait de l'ordre de l'éducatif. C'est comme si chacun défendait son territoire acquis avant la recomposition. D'où parfois l'illégitimité en effet de certaines belles-mères ou beaux-pères et cette réponse classique « tu n'es pas ma mère, tu n'as donc pas droit à me dire quoi que ce soit ».
Qu'est-ce qu'on répond à ça ? De toute façon, t'es pas mon père, t'es pas ma mère.
C'est une réalité. Ce qui ne veut pas dire
non, mais cette phrase qui est utilisée pour clore toute tentative d'autorité.
Oui. Je pense qu'en effet, le beau-père ou la belle-mère ne peut que dire c'est exact. Sur le plan du statut, c'est exact. Ce qui ne veut pas dire pour autant ne pas se sentir responsable de l'enfant et de pas, en tant qu'adulte, pouvoir lui donner des indications, des conseils sur son comportement.
Et notamment sur des règles de vie familiale. Je crois que il faut aussi qu'il y ait un dialogue en amont. Très très construit et constant, je dirais, pour que chacun sache qu'est-ce qu'il peut faire, quoi. Et notamment sur les règles familiales, je pense que le couple peut s'adresser aux enfants et leur dire extrêmement clairement de ça sera décidé entre nous.
Et ce travail en amont, il est essentiel pour qu'un enfant, un adolescent ne prenne pas un pouvoir exorbitant au sein de la famille recomposée.
Ah oui, moi je crois que le dialogue dans le couple est absolument essentiel et qu'il faut plutôt prévoir, anticiper que de se retrouver comme ça, complètement désarmé devant des réactions d'enfants intempestives et désagréables.
Marie-Laure Sunshine.
Alors évidemment, il n'y a pas de recette miracle d'une liste des choses qu'on peut partager tous ensemble et de chasse gardée, mais quand même, est-ce qu'il y a vraiment des domaines sur lesquels vous estimez que non, le beau-parent n'a pas à se mêler?
C'est pas moi qui estime qu'il y aurait des territoires réservés. J'ai envie de dire, c'est plutôt les adultes qui se positionnent comme tels. J'ai l'impression que c'est plus compliqué en tous les cas pour les femmes que pour les hommes. Il ne faut pas oublier quand même que les femmes sont en première ligne sur l'éducation des enfants. Et c'est elles qui ont du mal à lâcher sur ce territoire-là et à déléguer à une autre femme, par exemple, quelque chose autour de l'hygiène du corps, de l'alimentation, des comportements. On a moins entendu dans notre recherche, les beaux-pères et les pères, je vous avoue, ils ont été beaucoup moins présents, alors que ça semble être beaucoup plus compliqué pour les belles-mères et les mères sur cette question de partage des territoires. Il y a heureusement des cas où, en effet, ça s'organise très très bien, mais il y en a d'autres, en effet, où chacun va vouloir garder ses prérogatives, sa façon de faire, et où, en effet, dans les discours, on peut entendre filtrer, je dirais, des désaveux, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est autrement, et c'est là que les choses, évidemment, peuvent être tendues.
Et que faire quand c'est le père ou la mère qui ne supporte pas du tout que sa nouvelle compagne ou son nouveau compagnon fasse des réflexions à ses propres enfants? C'est une situation très fréquente qui peut empoisonner la vie conjugale, Béatrice Coparoli.
Oui, c'est une attitude qui est très nourrie de la culpabilité, justement, et d'un sentiment d'avoir à protéger et à réparer quelque chose chez ses enfants, ce qui, à mon avis, est pas la bonne idée, parce que il vaut mieux assumer ce qu'on a fait. La séparation, certes, elle les a fait souffrir, mais ils peuvent s'en remettre, et c'est pas en les surprotégeant comme ça qu'ils s'en remettront mieux.
Stéphane, par courriel, nous dit: je me sens coupable de ne pas aimer le fils de ma compagne comme il faudrait. Il m'est même souvent irritable, entre guillemets, et elle me reproche souvent de ne pas être assez proche de lui. J'essaye de faire des efforts, mais j'ai beaucoup de mal. Béatrice Coparoli.
Moi, j'entends, hein, c'est pas du tout évident, c'est ce qu'on disait, je crois, tout à l'heure, hein, c'est pas du tout évident de partager la vie d'un adolescent ou d'un enfant qui est pas le vôtre et avec qui on n'a pas tellement d'affinité. Mais c'est vrai qu'on, en tant qu'adulte, il faut quand même faire aussi des efforts et essayer, continuer à chercher, à trouver des terrains d'entente, des moments qui pourraient être des moments de complicité.
Catherine Selnay.
Moi, je crois, si vous voulez, que ce dont nous parlons là, c'est une invention, c'est-à-dire, en fait, les couples aujourd'hui sont obligés de créer de nouveaux modèles, de nouvelles façons de faire, avec des théories qui, parfois, je dirais, leur ont été proposées, comme un modèle prêt à l'emploi, qui ne fonctionne pas dans le quotidien. Les adolescents ne sont pas toujours aimables et n'ont pas toujours envie d'être aimés, déjà. Donc, c'est, en effet, ça complique les choses. Et je crois que, si vous voulez, qu'on a eu des discours qui ont accentué la culpabilité des couples. On a dit, par exemple, que la coparentalité devait être le modèle premier. C'est-à-dire que, au-delà du désamour conjugal, il devait y avoir finalement une entente avec l'ex. Mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Il y a parfois des conflits qui continuent à durer. Et des conflits qui, entre les deux membres de l'ex-couple, vont, je dirais, complètement biaiser la recomposition.
Je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même reconnaître que les enfants se portent quand même beaucoup, beaucoup mieux quand le couple parental continue à fonctionner et qu'il y a une cohérence, si vous voulez, quand les enfants, justement, posent quelques problèmes, quand il y a une cohérence de réponse entre le père et la mère.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Mais ce modèle-là, qui est un modèle idéal type, on ne le retrouve pas dans tous les milieux de la société à la même ampleur.
Ça, c'est sûr.
Allez, j'en ai la garde une semaine sur deux. Éric Libio et ses choses presque vues.
France Inter.
T'es quoi, psychiatre.
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Fort heureusement, il n'est ni psychiatre ni psychothérapeute. Éric Libio.
Alors aujourd'hui, Ali, je vais vous parler d'Apollo 13, le film de Ron Howard avec Tom Hanks, l'histoire d'astronautes en partance pour la Lune et obligés de rebrousser chemin à cause d'un grave problème technique. Film qui fait évidemment penser à la famille recomposée, hein, pas la peine de vous dire pourquoi, ni de vous faire un dessin. Enfin bon, je vous vois un petit peu surpris, alors je vais vous donner l'explication. Vous vous souvenez sûrement de la célèbre phrase du film « Allô Houston, nous avons un problème ». À ce moment-là, les astronautes sont en danger. Je vous épargne les détails techniques du problème. Et Ed Harris, donc le chef du centre de Houston, demande à ses ingénieurs de trouver un moyen pour faire entrer un cylindre dans une boîte pour réparer les dégâts et ainsi sauver l'équipage. Et bien voilà, recomposer une famille, c'est parfois comme faire entrer un rond dans un carré. C'est un problème à géométrie variable, mais pas seulement, car finalement, aujourd'hui, une famille recomposée, c'est un cas d'école. Il y est question de biologie, de français, de conjugaison, d'algèbre, avec de fumeux problèmes de maths, comme par exemple, sachant qu'une famille prend le train à Bordeaux à 11h34 et une autre à Lille à 13h46, à quelle heure vont-elles se recomposer à Tours? Ou bien, sachant qu'une baignoire d'une contenance de 150 litres fuit à raison de 3 litres par heure d'été et de 2,5 litres par heure d'hiver, à quel moment faut-il nettoyer les enfants et laver le linge sale en famille? Vous avez 2 heures. Exercice de français maintenant, comment appelle-t-on l'action de réunir intimement différents éléments? Ali, la conjugaison. Et un exercice de biologie dans la foulée, qu'est-ce que la conjugaison justement en biologie? Eh bien, c'est l'union de deux organismes unicellulaires aboutissant à une régénérescence. Vous voyez déjà, on commence à arriver au problème. Eh bien, en parlant de conjugaison, recomposer une famille, c'est remettre en forme le présent après un passé décomposé. Et il n'est pas facile de tout conjuguer, les enfants de l'un, on l'a dit tout à l'heure, les enfants de l'autre, les ex des uns et les ex des autres. Tout est question de temps, d'où la question. Quel est le temps recomposé d'une famille alors que le passé n'a pas été aussi simple? On peut esquisser une réponse, c'est sans doute un futur qu'on espère parfait quand le passé s'est révélé imparfait. Mais ceci est évidemment donné à titre indicatif car il n'y a pas de règle en la matière, mais uniquement des cas de prénoms personnels. Et je reviens à Apollo 13, histoire de faire rentrer le cercle du cinéma dans le carré de la réalité, dans la scène que j'évoquais au début. Darris explique que le problème aux scientifiques et leur dit clairement « l'échec n'est pas une option ». Phrase d'ailleurs si efficace et si forte que dans la vraie vie, l'homme que jouait Ed Harris et qui s'appelle Gene Kranz a intitulé son livre « L'échec n'est pas une option » alors qu'il n'avait lui-même jamais prononcé cette phrase, comme quoi le cinéma aide parfois la vie comme il peut. Et dans le cas des familles recomposées, j'y reviens aussi, l'échec n'est pas une option et sans doute une injonction un peu forte. Après tout, nous ne sommes pas des personnages de cinéma mais des êtres humains, mais s'il n'est pas impératif de réussir, il est impératif d'essayer. D'accord, c'est une affirmation très subjective, mais il y a quand même des exemples parfaits à partir d'éléments très conditionnels. L'idée est d'avoir les pieds sur Terre sans être dans la Lune, comme vont finalement réussir à le faire les astronautes d'Apollo 13, un film qui se termine très bien. Fiction et réalité, ce sont souvent les mêmes histoires.
Vous avez fait peur au début avec votre histoire d'Apollo 13, mon cher Éric Libiot. La chronique d'Éric Libiot à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Allez, nous attendons vos questions sur la famille recomposée, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Alani, interprété Papa.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h44, comment bien vivre dans une famille recomposée? Marine, sur notre page Facebook, nous dit « Pour ma part, je ne supporte pas mon beau-fils. Il est le reflet d'une mère et d'une adulte terriblement aigrie et qui n'a jamais digéré sa séparation. C'est extrêmement difficile à vivre et je deviens malgré moi une terrible belle-mère et nous risquons la rupture. » Béatrice Copper-Royer, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne.
Oui, il y a des projections qui sont terrifiantes pour les enfants et je crois que quand on s'engage à vivre avec quelqu'un qui a des enfants, il faut aussi un peu anticiper que l'ombre de l'ex va souvent planer dans la famille. Donc c'est quelque chose qu'on peut anticiper, c'est pas facile et donc je crois que c'est très douloureux quand même pour les enfants d'avoir affaire à des projections pareilles et de sentir autant de, je dirais presque de haine quoi. Il faut protéger les enfants quand même.
Catherine Selné.
Oui, je pense que d'ailleurs ce témoignage est conscient en même temps de cette haine qui émerge là. Et en effet, l'enfant n'est pas réductible à être simplement la copie conforme, le sosie du parent absent. Donc il y a toute une réflexion, une analyse introspective à faire sur d'où viennent ces sentiments, pourquoi ils sont aussi forts. Ça nécessite en effet de l'adulte du coup de se comporter en adulte et d'essayer d'analyser ses émotions.
Éric Libio.
Oui, Ali le disait au début de l'émission, il y a de plus en plus de familles recomposées. Est-ce qu'avec le temps, est-ce que les enfants qui voient leurs propres camarades vivre dans une famille recomposée, ou parfois même leurs propres parents qui eux-mêmes aussi sont dans une famille recomposée, est-ce que ça change un peu la donne? Est-ce que du coup les choses se passent mieux avec le temps?
En tous les cas, ce qui est complètement évacué aujourd'hui, c'est le côté marginal. Les enfants sont plus regardés comme en 1960 quand les parents divorçaient et que tout d'un coup c'était une espèce de communauté à part, de personnalité à part. Donc là, il y a certainement une espèce de solidarité peut-être qui peut se faire entre les enfants. Je demande quand les parents se séparent, souvent on est consulté pour savoir comment se portent les enfants parce que ça soulage un peu les parents. Et c'est vrai qu'ils disent, les enfants souvent, que leur copain est tel, etc. Les parents aussi sont séparés et ils en parlent un petit peu entre eux. Donc il y a un espèce de partage d'émotions qui se fait et qui soulage. Donc oui, ça, je pense que le fait que ça soit une situation commune et certainement c'est beaucoup moins stigmatisant qu'autrefois. En revanche, c'est toujours une histoire individuelle et donc les émotions elles sont les mêmes, enfin voilà, elles sont très singulières.
Pierre nous demande comment réagir quand le beau-parent fait des différences entre ses propres enfants et ses beaux-enfants. Catherine Selné.
Je crois que là, on est sur quelque chose aussi probablement un peu d'utopique, c'est-à-dire les différences, même dans des familles ordinaires, c'est-à-dire qui ne vivent pas la recomposition, existent entre les enfants. Je crois que c'est un leurre de penser que chaque parent va aimer tous ses enfants également de la même façon. Donc déjà là, même au sein d'une famille traditionnelle, les différences existent. Alors qu'elles soient un peu plus exacerbées, je dirais, avec la recomposition, je dirais que c'est une évidence, peut-être même que c'est un incontournable de la recomposition familiale, mais là aussi ça se travaille. Ouais. C'est-à-dire que il y a une différence entre faire des différences entre les enfants et vraiment faire des inégalités criantes qui humilient les enfants ou qui les mettent à mal.
C'est l'injustice qui est insupportable. Oui, hein, et ça effectivement, il y a une part de réflexion qui est incontournable. Mmh. On peut aussi réfléchir et surmonter ses émotions.
Voilà, je te présente Pierre, Camille.
Bonjour Camille.
Bonjour monsieur. Oh non, on ne l'appelle pas monsieur, c'est un ami d'Antoine, tu sais. Il est prof comme lui à Jacques Decour. Tu connais Antoine?
Bah oui, je connais Antoine.
Je vais te faire un petit café.
Ah hein. Bah oui.
Et alors, ce qui est très marrant, c'est que Pierre a lui aussi deux enfants. Et deux enfants qui ont à peu près le même âge que ton frère et toi. Il y a Victor, hein, qui le grand, qui a 14 ans, et Thomas, lui, qui a 9 ans, c'est ça, hein, comme ton petit frère, voilà.
Et toi, tu as quel âge, Amy?
12 ans.
Voilà, 12 ans.
Donc, 14 ans, c'est presque c'est pareil.
Cool. Voilà. Hein?
Bon, bah, je vais vous laisser.
Bon, bah, dis, Camille, qu'est-ce que tu fais?
Dépêche-toi. Allez, bon cours de danse. Ouais, mais il est prof de quoi?
Prof de techno.
De techno?
Oui, de techno.
Mais c'est super nul, la techno.
Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Allez, au revoir.
Catherine Selney, elle rame sec, hein, Karine Viard, dans cet extrait du film Les Enfants.
Hein. Tout à fait, présentation difficile hein, quand même du futur. On voit bien à quel point on essaie de trouver des similitudes, des points d'affinité, l'âge. L'âge ne voulant pas dire d'ailleurs qu'on va être ami avec les enfants de l'autre. Je crois qu'il faudrait peut-être aussi distinguer les familles recomposées selon la durée de vie ensemble. Vous avez des familles qui recomposent que tous les 15 jours, d'autres qui recomposent sur du temps long, d'autres qui recomposent une fois par mois parce que les enfants voyagent. Et c'est probablement pas le même univers à partager.
Bonjour Anne Chaplin, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous avez écrit « Famille recomposée, l'envers du décor ». Je vous cite hein, « J'ai construit une famille nombreuse, mais je ne me suis jamais senti aussi seul. Je n'ai pas vraiment de place auprès de mes beaux-enfants et la plupart des choses qui les concernent m'échappent. Je ne peux partager mes peines avec mon compagnon et je vois bien que les quelques amis avec qui j'évoque le sujet ne me comprennent pas, elles non plus. » Anne Chaplin.
Effectivement, on se dit on va vers la famille recomposée avec l'idée on va créer une grande famille et puis il y a une idée très positive derrière cette notion-là. Et puis en fait, on se retrouve souvent extrêmement seul par rapport à toutes les complexités qui se présentent. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu montrer dans ce témoignage, c'est que en fait, quels que soient les efforts que l'on fait pour que ça se passe bien avec tout le monde, tout ne dépend pas de soi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette émission qui sont extrêmement justes, mais ça dépend également de la place que va nous donner notre compagnon ou notre mari. Ça dépend aussi de la place que va nous donner l'ex du compagnon et du mari, qui peut-être est très jalouse et qui peut-être a une influence sur les enfants. Et quand ces deux facteurs ne sont pas réunis, on a beau faire tout ce qu'on peut pour, au contraire, aller vers les enfants, mais je pense qu'au contraire, on va se faire rejeter. Plus on va vers eux, plus on essaie d'être sympa, et plus on va se faire rejeter parce que finalement, on est une concurrente à la mère. Et puis parfois, on concurrence peut-être aussi le père, ou le père s'est pris dans des conflits de culpabilité et veut protéger ses enfants. Et si on veut, ne serait-ce que se sentir un petit peu chez soi, déterminer quelques règles, eh bien, on va se prendre coup sur coup. Et on va être très seul parce que c'est pas seulement au sein de son foyer qu'on est seul, mais quand on parle à ses amis, quand on parle dans la société, eh bien, il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Les amis que l'on a en général sont en famille normale et ont beaucoup, beaucoup de mal à comprendre pourquoi on vit une telle détresse au sein de son foyer. Et parmi la société, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'on va inscrire, je ne sais pas, faire quelques démarches que ce soit pour ses beaux-enfants, qui arrivent très fréquemment parce que les femmes s'occupent quand même de beaucoup de choses, que ce soit pour les enfants ou les beaux-enfants, mais on ne sait pas comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils vont nous traiter comme une imposteur? Est-ce qu'ils vont nous traiter comme une usurpatrice? Ou bien est-ce qu'ils vont accepter qu'effectivement, finalement, c'est plutôt généreux de faire quelque chose pour ses beaux-enfants et ça là, ne va pas poser de problème. Mais donc, quel que soit l'endroit vers lequel on se dirige, on se prend coup sur coup. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé et je pense que c'était bien. C'est pour ça que j'écris ce témoignage. Je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui ont lu mon livre et qui me remercient d'avoir traduit en fait ce sentiment extrêmement complexe qui arrive quand on ne comprend pas. On fait tous les efforts du monde et finalement, ça ne marche pas.
Restez avec nous, Anne Chaplin. La cohabitation entre les enfants des deux lits, ça ne ressemble pas toujours au monde merveilleux de la famille Ricoré. Les enfants peuvent mal vivre l'injonction de bien s'entendre et de cohabiter dans la bonne humeur, Béatrice Coparoyer.
Mais oui, mais surtout qu'en plus, c'est ce que je vous l'avais dit, ils n'ont pas tous la même place, ils partagent pas tous le même temps. Il y en a qui sont à plein temps, il y en a qui viennent le week-end, il y en a qui viennent une semaine sur deux. Et donc, il y a une espèce de géométrie variable, justement, dans ces familles, qui fait qu'ils n'ont pas tout à fait la même place dans la maison.
Et que faire quand les enfants n'ont pas reçu la même éducation, qu'il s'agisse des repas, de la gestion des écrans, comment on s'y prend ?
Justement, tout dépend du temps de vie que l'on va avoir ensemble. Si on se retrouve tous les 15 jours, j'ai envie de dire qu'imposer un nouveau modèle éducatif pour un week-end me paraît être un peu peut-être à risque, en tous les cas à risque de conflit. Si l'enfant va vivre plusieurs mois, là on voit bien que les règles éducatives se négocient. Je crois que ça fait partie du relativisme culturel. Chaque famille a ses modes éducatifs. L'important étant peut-être de ne pas discréditer le modèle de l'autre et de dire dire que ce modèle-là est un modèle qui n'est pas recevable. Là, par contre, je crois que ça engage les enfants à camper sur leur position de défense de leurs parents.
Et toujours discuter en amont, Béatrice Copper-Royer.
Oui, tout à fait. Et expliquer aussi qu'il y a des codes différents, que dans certaines familles, par exemple, se pas se lever de table ou tenir sa fourchette comme ci ou comme ça, c'est important. Dans d'autres, pas du tout. Voilà, que ce sont des codes différents. Et c'est là où je dis que c'est aussi une richesse parce que ça ouvre à des éducations différentes et on peut s'adapter. On peut demander à un enfant de s'adapter. Par exemple, il va chez les grands-parents de l'autre côté. On peut lui dire, là, ça va être important de faire ci ou comme ça parce que eux, c'est ce qui compte.
Alors, dans un foyer traditionnel, quand un nouvel enfant paraît, ce n'est pas toujours facile à accepter pour les autres frères et sœurs. Que dire quand l'enfant nouveau paraît dans une famille recomposée, Catherine Selnay ?
Je crois qu'une des choses que les jeunes ont le plus mis en évidence, c'était que la famille recomposée leur faisait redécouvrir que leurs parents avaient une sexualité. Alors qu'elle se concrétise ou pas par la naissance d'un nouvel enfant. Mais les scènes qu'ils ont décrites le plus sont les scènes où les deux membres du couple s'embrassent, se touchent. Et là, c'est vraiment ce qu'il y a probablement de plus violent d'ailleurs à un moment donné. Alors lorsqu'un enfant arrive, j'ai envie de dire que par contre, il est bien intégré comme un frère ou une sœur et non pas comme un demi, ce qu'il a, je dirais, une terminologie tout à fait sociétale, mais c'est le frère ou la sœur. Par contre, je dis bien les quasi-frères et sœurs, c'est vraiment une sphère autre.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément intégrés comme faisant partie de la fratrie. Alors que le petit enfant qui naît dans ce nouveau couple va lui être intégré comme faisant partie de la fratrie.
Et puis quand ce nouveau bébé arrive, certains enfants font définitivement le deuil d'une réconciliation du couple parental, Béatrice Copper-Royer.
C'est
le principe de réalité.
C'est le principe de réalité. Alors là, vraiment, vraiment, vraiment. Et j'en ai entendu très souvent des témoignages, notamment d'adolescents qui étaient furieux en réalité de ce bébé qui arrivait. Ce qui voulait pas dire d'ailleurs qu'après ça se passait pas bien, parce que le bébé il va à la conquête aussi de ses frères et sœurs et il les séduit. Mais au départ, c'est vrai que ça signe la rupture et ça renvoie aussi ce que vous disiez à la sexualité des parents. Et les adolescents ont horreur d'avoir affaire à la sexualité de leurs parents.
Pour terminer, j'aimerais qu'on évoque les enfants du week-end qui peuvent t'envier, les enfants qui vivent sur place et qui règnent en maître dans la maison, Catherine Selnay.
Oui, bien sûr, c'est une question, la recomposition familiale, c'est aussi une question de partage de territoire. Et nous avons en effet eu des témoignages de jeunes qui disaient avoir laissé par exemple leurs affaires et pensant les retrouver 15 jours plus tard et voir les affaires ayant changé de tiroir par terre ou autre et de ne pas avoir de place.
Ça peut être violent.
Tout à fait.
C'est tellement vrai. Moi je pense à quelqu'un qui, ses parents ont divorcé il y a 30 ans et qui se rappelle encore l'émotion qu'elle a eue quand revenant dans la maison de son père, sa chambre était occupée par le fils de sa belle-mère, quoi. Sans préavis, quoi, sans aucune préparation.
Anne Chaplin, il nous reste une petite minute, un conseil fondamental que vous aimeriez délivrer en guise de conclusion pour surmonter les principaux obstacles inhérents à la famille recomposée.
C'est peut-être comme dans une famille normale, il faut pas attendre à ce que les choses, faut lâcher prise. Faut vraiment lâcher prise, faut pas forcément forcer, comme on le disait, l'amour envers ses beaux enfants, le fait qu'ils vous apprécient ou pas. Mais c'est extrêmement difficile parce que moi, ma belle-fille, depuis son adolescence, ne m'adresse plus la parole. Mais il faut pouvoir accepter que finalement, on va pas forcément créer un lien durable. Si on se sépare, ce lien il disparaîtra peut-être. Je crois qu'il faut beaucoup lâcher prise.
Et renoncer à la famille idéale, Béatrice Copper-Royer.
Et renoncer à la famille idéale, absolument.
Catherine Selnay. Merci beaucoup, Béatrice Copper-Royer. Et la famille recomposée, avec un point d'interrogation, c'est publié chez Solar. Merci, Catherine Selnay. L'enfant de l'autre, petit traité sur la famille recomposée, est publié chez Max Milo. Merci, Marie-Laure Zonshein, de Femme Actuelle, et Éric Libio de chez nous. Demain, nous écoutons les questions psy que peuvent se poser les ados. Les psychiatres David Gourion et Marie-Claude Gavard répondront à leurs questions au 01 45 24 7000.